Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir, komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Onde Femme. Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonjour et bienvenue dans Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous sommes en direct dans nos studios de Ferney. Et donc, nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler, si vous le souhaitez, en faisant le 50 40 51 41. Je répète, 50 40 51 41, 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine, pour intervenir dans nos émissions. Attendez peut-être qu'un peu de musique soit diffusée, puisque quand on papote en direct, c'est un peu difficile de répondre au téléphone en même temps. Ou bien, pour tous nous poser des questions, nous faire des propositions, n'hésitez pas. Notre antenne radiophonique est aussi ouverte. Alors aujourd'hui, dans Remue Ménage, eh bien, j'ai la chance que Sophie Barré ait accepté de répondre à mon invitation plus que faite à la dernière minute, puisque Sophie Barré a accepté de venir dans nos studios aujourd'hui, hier soir seulement, alors que je venais voir le premier film montré dans le cadre du 12e Festival de Films et Musique du Monde, organisé chaque année au musée par le musée d'ethnographie et les ateliers d'ethnomusicologie. Cette année, à nouveau, c'est à l'Alhambra et c'est donc depuis hier soir, mardi 8 octobre, jusqu'au 18 octobre prochain, tous les jours, y compris le week-end à 20h30. Mais le week-end, c'est des concerts parce que c'est film et musique du monde, donc musique. Et ce festival est consacré à un peuple qui allie l'image et la musique. Ce sont les Tziganes. Alors, j'avais envie, juste avant que vous rencontriez Sophie Barré, mais d'abord, Sophie, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation si tardive. Donc, je voulais juste vous lire quelques extraits du texte que René Furst, qui a organisé ce festival en collaboration avec Sophie Barré, les quelques mots qu'il écrit dans le programme de ce 12e festival de films et musique du monde. Il fait le lien entre les autres festivals qui ont déjà été organisés. Vous vous souvenez peut-être de India nous sommes, India nous resterons, qui était le thème du festival de 1992. L'année passée, c'était les films du Sud. Cette année, alors, les Tziganes d'Europe qui, dit-il, sont fiers d'eux-mêmes, fiers de leur appartenance et de leurs différences. Comme les Indiens, dont René Furst est le spécialiste en passant, les Tziganes depuis 500 ans souffrent de la persécution, la déportation et même l'extermination de la part des gadjés, nom donné aux non-Tziganes, sédentaires et dominateurs. Faut-il rappeler que le génocide nazi qui a frappé près de 500 000 Tziganes, hommes, femmes et enfants, dont le seul tort était celui d'être Tzigane, nomade et insoumis. René Furst continue en disant que, à son avis, il est temps que les choses changent, c'est-à-dire que oui, nous en Suisse, nous avons nos Indiens et nous nous comportons à l'égard comme les Américains se sont comportés à l'égard des Indiens. Alors il faut que cela change et que nos Tziganes soient reconnus à part entière avec leurs défauts et leurs qualités. Et à sa connaissance, donc celle de René Furst, les Tziganes n'ont jamais enlevé nos enfants pour en faire des Tziganes au-dessus de tout soupçon. Quant aux poules qui nous ont parfois volées, eh bien Gatliff, qui est un des réalisateurs de deux films qui sont montrés dans le festival, dont un vous l'avez certainement vu, c'est Lachodrome. Gatliff était prêt à nous les rendre, nos poules, lors de la première de son film à Paris. Alors, faut-il rappeler que des personnages connus comme Charlie Chaplin, Pablo Picasso et Django Reinhardt, bien sûr, étaient d'origine tzigane et que le fléau tzigane, ce sont les nazis qui l'ont inventé et nous les avons lâchement imités. Alors continue René Fürst, qu'on se le dise une fois pour toutes, les Tziganes ont une culture et une histoire, une culture forte et solide, une histoire longue et douloureuse, 500 ans d'errance et de révolte, cela compte dans la vie d'un peuple, même sans écriture. Et s'il est vrai que les Tziganes n'ont point laissé de traces visibles de leur passage, des monuments chers à notre propre civilisation sédentaire et dominatrice, eh bien la musique, et quelle musique, est leur mode d'expression par excellence.
तोरे भाईडोरी अम्मा एक बेनड़की आले गी क्यों धरुड़े क्यों परनाई रे अम्मा मिनो दिवे क्यों नी गाड़े की रो भाड़ी यो धरुड़े क्यों परनाई ओ अम्मा मिनो देवे क्यों निकाड़ कीरो फाड़ी यो अरे पगेरे युबरोनी बीर तारोड़ी बनाड़ की पगेरे रोनी बीरा तारोड़ी बनाड़ अरे बंदो हूँ आकरिया तो जपान रे यामा मिनो देवे क्यों निकाड़ कीरो फाड़ी यो अरे देवे क्यों नी जोमन अरे देवे क्यों नी गाड़ कीरो बाड़ी यो।
Ça, c'est la première musique que vous pouvez entendre devant les images magnifiques du film Lachodrome. Et cela se passe au Rajasthan. Le Rajasthan, Sophie Barré, dont on dit que c'est là le pays d'origine des Tziganes.
Absolument. En fait, ils sont partis des Indes et ils ont émigré petit à petit, d'abord dans les pays du Maghreb et ensuite sur les côtes de la Méditerranée. Après, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais ils sont montés vers les pays de l'Est où ils se sont étendus, surtout en Roumanie, en Yougoslavie et en Allemagne de l'Est.
On dit parfois qu'il y a deux chemins des Tziganes, des Gitans. Il faudra qu'on parle de tous ces noms qu'on emploie d'ailleurs. Certains seraient venus par le nord, certains par le sud. Ça a de l'importance, ça? Ça enrichit de façon différente leur musique, leur histoire?
Disons que, en fait, ceux qui sont venus du sud se sont beaucoup plus inspirés de la musique espagnole, du flamenco. Et ils ont vraiment un style de musique complètement différent des Tziganes qui viennent de l'Est, qui ont, eux, au contraire, une musique composée de violons, d'accordéons, de sitar. C'est une musique différente, c'est aussi une musique sauvage, mais complètement différente.
Alors peut-être juste avant que nous parlions de qu'est-ce qui vous a amené à être aujourd'hui la co-organisatrice de ce 12e festival des films et de musique du monde avec René Fürst, et puis qu'est-ce qui a fait qu'aussi vous vous êtes passionnée pour le monde tzigane, le peuple tzigane, je voulais juste peut-être donner à nos auditrices et auditeurs quelques chiffres pour qu'on se rende compte que ça veut dire aujourd'hui quand on parle du peuple tzigane, parce qu'on dit par exemple que les tziganes forment la première minorité transnationale en Europe, qu'elle est forte de plus de 5 millions de personnes et qu'on le sait bien parce que les derniers événements, entre autres de la soi-disant ouverture des pays de l'Est, ont fait qu'ils ont été confrontés en Europe occidentale à de graves problèmes d'intégration et en Europe orientale à une ségrégation de plus en plus violente. On est loin d'arrêter cette façon de faire épouvantable et que donc la question tzigane est de nouveau ouverte, entre autres par les ultra-nationalismes qui se développent en Europe depuis la tombée du communisme. Et tous ces ultranationalistes qui, une fois de plus, contestent le droit à l'existence de ce peuple. Alors, des chiffres, il semblerait que c'est des évaluations difficiles à faire en raison de la variété des statuts des Tziganes suivant les divers pays d'Europe. Mais on dit que, donc, en Europe d'aujourd'hui, vivent environ 12 millions de Roms et de Sintés. La majorité en Europe orientale, par exemple, 2,5 millions en Roumanie, en Yougoslavie, 1 million. Et plus de 800 000 personnes vivent en ex-URSS. Il y a aussi une importante population en Hongrie, plus de 600 000 personnes, et en Tchécoslovaquie, entre 700 et 800 000. Nombreux sont les Tziganes en Grèce et en Turquie, mais qu'on ne trouve pas, semble-t-il, dans les statistiques officielles, car on nie absolument la population tzigane dans ces pays. On retrouve aussi beaucoup de Roms en France, en Espagne, en Allemagne, mais pas beaucoup de chiffres précis. Si je compare, j'ai là par exemple les sources, les chiffres donnés dans le programme distribué pour le festival. On dit qu'en France, il y aurait 250 000 tziganes. Et dans le livre « Les tziganes, une destinée européenne » écrit par Henriette Asseo dans la collection Découverte Gallimard, cette historienne spécialiste du peuple tzigane dit qu'il y aurait 500 000 tziganes en France. Pourquoi du simple au double ? Ça, enfin bon, les statistiques sont bizarres. 700 000 personnes, dit-elle, vivent en Espagne. Et si je regarde les chiffres du programme, j'ai même pas l'Espagne dans la liste. Bon, ben voilà, tout à coup, les tziganes n'existent pas en Espagne dans le programme. Ils existent pour Henriette Asseo. Il y aurait donc des gitans et des tziganes dans tous les pays d'Europe qui varient entre 10 000 et 80 000. 10 000, par exemple, même dans les pays scandinaves, 80 000 en Italie. Il semblerait que l'espérance de vie des tziganes est de plus en plus courte, et plus courte que celle des populations environnantes en tout cas. Selon certaines études, leur espérance de vie varierait entre 46 et 50 ans. Et dans certains quartiers d'Yougoslavie ou de Roumanie, même entre 29 et 31 ans, ce qui semble effectivement très très bas. Tous ces chiffres sont tirés d'une étude qui s'appelle « Tziganes d'Europe », présentation par le président de la Romani Union. Et ces chiffres datent de 1993, donc ils sont quand même relativement récents. Alors, Sophie Barry, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au peuple tzigane ? Alors, parlons d'abord. On vous a confié avec René Furst la programmation de ce festival et la gestion de ce 12e festival. Vous ameniez surtout votre connaissance sur la filmographie, si j'ai bien compris.
Oui, disons que je suis tout à fait amateur de ce monde tzigane que j'ai découvert tout à fait par hasard il y a une dizaine d'années. Au cours d'un séjour en Camargue, je me suis trouvée dans une auberge provençale où un groupe de gitans sont venus jouer, animer la soirée. Et il se trouvait que ce groupe appartenait à la famille de Manitas de Plata. C'était simplement leur neveu et petit-fils, etc. Donc, il y a eu un courant qui est passé entre ces gens et moi, et l'un des leaders du groupe, comme j'étais avec ma vidéo, m'a demandé si je serais intéressée, après une courte discussion, de m'occuper de lui et de lui servir un peu d'impresario, parce que je lui avais raconté que j'étais déjà dans les relations publiques. Et puis bon, c'est parti comme ça. Finalement, j'ai leur ai fait un vidéoclip. Et puis de là, j'aurais fait une série de photos et puis des affiches. Et puis j'ai commencé à leur chercher des contrats. Ça a démarré comme ça. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai connu d'autres groupes. Et puis j'ai continué à représenter ces groupes plus ou moins vis-à-vis du public pour leur chercher du travail. Quand je suis revenue à Genève, j'ai trouvé des musiciens tout à fait par hasard aussi ici, qui galéraient un peu du côté des eaux vives, des paquis, dans des petits bistrots minables. Et puis j'en ai trouvé un qui avait une voix extraordinaire. Et puis en fait, je me suis occupée d'eux et je les ai lancés. Et maintenant, ils sont sur les rails, ils ont une superbe sono, ils vivent plus en caravane, dans la boue, dans les ordures, et comme ils vivaient au début lorsque je les ai connus. Et ils sont ravis.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sophie, de rentrer en contact comme ça avec le monde gitan lorsqu'on est soi-même gadjé ? On l'a dit tout à l'heure, gadjé, c'est le nom que donnent les gitans au nom tzigane.
Oui, tout
c'est
à
quoi,
fait.
C'est les blancs ou
tout
c'est
à fait.
Étrangers?
C'est, oui, c'est tout ce qui n'est pas gitan. Les gadjés, c'est le monde des blancs, en fait. Mmh. et voilà, pour eux, c'est toujours un petit peu l'ennemi. Ils le voient toujours un petit peu comme un adversaire.
Donc, péjoratif, gadjé.
Donc, quelqu'un dont il faut se méfier, dont il faut se défendre, surtout. Parce que, bon, je pense que les municipalités, tous les endroits où ils vivent, sont toujours un petit peu... Les gens sont un peu réticents lorsqu'ils arrivent dans un village ou dans une ville. On les met toujours du côté des décharges publiques, où on ne les autorise même pas de stationner. Et puis bon, il se crée évidemment une espèce d'hostilité entre les gadjés et les gitans. Mais si on va vers eux, qu'on leur tend la main, qu'on les prend comme individus à part entière, qu'on les respecte, à ce moment-là, ils changent complètement d'attitude vis-à-vis des gadjés. Et je peux dire que ce sont des gens qui, lorsqu'ils vous ont pris en amitié, sont vraiment très fidèles et feraient n'importe quoi pour vous quand ils ont vraiment confiance en vous.
Mais qu'est-ce qui ouvre le chemin de la confiance? Parce que comment, là, vous les avez rencontrés comme ça dans un bistrot, c'est un lieu assez public. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, la confiance se donne ou s'échange, en tout cas?
Disons que ça ne se crée pas au premier instant. Il faut quand même des liens qui durent. Il faut faire quelque chose pour eux. En fait, c'est ça. Ils attendent de vous que vous fassiez un pas. Eux, ils sont dans une situation précaire et ils ont envie qu'on les aide. Surtout ceux qui sont musiciens. Bon, je me suis personnellement occupée des musiciens. Les autres, c'est peut-être plus délicat. Je ne connais pas vraiment le domaine des ferblantiers, de ceux qui travaillent l'osier. Il y en a qui ramassent les ferrailles, donc qui font de la brocante. Ils ont tous des petits métiers, finalement. Mais moi, je connais personnellement bien les musiciens. Et en fait, ce qu'ils cherchent, ils sont assez timides, ils sont assez réservés, ils ne savent pas se vendre. Beaucoup ne savent pas lire, ni compter. Et ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de signer des contrats, de négocier les montants d'argent qu'on va leur donner et de les guider sur la route parce qu'ils ne savent pas lire les panneaux, souvent. ça paraît incroyable. Mais ils ne savent pas se diriger, ils ne savent pas lire une carte. Alors, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide, qui les aide. Et si vous faites ça pour eux, après, c'est à la vie, à la mort, vraiment.
Et vous avez-vous ressenti cette précarité lorsque vous avez rencontré les premiers tziganes que vous avez rencontrés? C'est une chose qui se sent immédiatement quand on partage un petit bout de leur vie, comme vous avez pu le faire dans un premier temps?
Ah oui, parce que bon, disons que pas la famille de Manita, parce que là, ce sont des gens qui sont quand même aisés, qui ont des appartements, ils sont sédentaires. Mais le second groupe que j'ai rencontré ici, en Haute-Savoie, je dois dire qu'eux vivaient vraiment dans la boue, avec des enfants en bas âge. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils volaient dans les magasins pour arriver à nourrir leurs enfants, parce qu'on leur donnait 20 francs, 30 francs pour une soirée, et c'est pas avec ça évidemment qu'ils pouvaient vivre. Alors il fallait payer le camping quand ils étaient autorisés à rentrer dans un camping pour faire la lessive, sinon c'était en plein hiver, il fait très froid et l'eau gèle, donc il fallait de temps en temps aller dans un camping pour avoir de l'eau chaude pour faire la lessive. Et ils avaient du mal à payer les campings. Et sinon, ils retournaient dormir et camper dans les décharges. Et là, c'était vraiment très, très dur. C'était vraiment très dur. Moi, au début, je leur ai apporté à manger. J'ai apporté des vêtements pour les enfants. Ça me faisait trop de mal de les voir souffrir comme ça. Ils souffraient vraiment.
Mais ils n'auraient pas renoncé à leur vie de
nomade. Ah non. Leur liberté, je crois qu'ils mourraient pour leur liberté. Je crois que c'est leur idéal, c'est le plus important pour eux. Et dans les chansons qu'ils écrivent, dans les poèmes qu'ils écrivent, d'une extrême sensibilité d'ailleurs, ils chantent toujours cette liberté. C'est ce qui leur tient le plus à cœur.
Et ceux qui, comme vous venez de le dire tout à l'heure, comme la famille de Manita Di Plata, sont choisis de se sédentariser parce qu'ils ont des appartements, c'est qu'ils ont renoncé à leur liberté?
Pas vraiment, parce que dans la tête, ils ont toujours cette idée de liberté. Mais ils se sont un petit peu ramollis, si je puis dire. Ils ont commencé à apprécier le confort, les voitures confortables, un appartement agréable quand il fait froid. Ils ont quand même la caravane pour aller camper au bord de mer sur Palavas ou la Grande Motte l'été. Mais dès que septembre-octobre arrive, ils retournent vite se mettre au chaud. Bon, ça, c'est sûr que... Ils sont un petit peu pollués, ils sont plus... Je pense que l'argent qu'ils ont pu gagner, puisque ce sont des gens qui ont quand même un nom maintenant, c'est comme la famille des Gypsy Kings, ils vivent d'une manière confortable.
Donc des statuts très différents.
Tout à fait.
Pour les uns et pour les autres.
Absolument.
À la fois certains conforment un peu à l'image mythique qu'on veut bien toujours maintenir à propos des gitans, des tziganes, et puis aussi des choses qui ont bien changé
avec
le temps, soit le succès, soit peut-être la sédentarisation qu'on de tout temps a cherché à imposer à ces gens-là, en tout cas en Europe. Alors, c'est de ça qu'on va reparler tout à l'heure, Sophie. Est-ce que vous m'avez amené deux cassettes? Un groupe qui s'appelle Le Sol y Sombra, et vous me dites, ils seront là avec nous le 18 pour marquer la fin du festival. Est-ce que vous nous en parlez un tout petit peu? Et puis, on en profite pour mettre un peu de musique.
Eh bien, ça, c'est un groupe que j'ai connu du côté de Saint-Tropez. Ils jouent beaucoup sur les plages l'été. Ils jouaient à la voile rouge. Et j'ai sympathisé avec eux. Et ils m'ont emmené un petit peu sur la route avec eux au fur et à mesure de leurs concerts. Ils ont fait, bon, c'est un groupe qui est assez connu. Ils ont fait, pour ne pas le nommer, le mariage d'Eddie Barclay. Ils sont très, très souvent chez Eddie Barclay à Saint-Tropez. Ils ont fait le rallye Saint-Tropez. Ils font toujours la feria de Nîmes. Je les ai fait venir à Nyon au festival il y a 4 ans environ. Ils ont joué sur la grande scène. Ils ont fait 3 concerts le même jour. Et je crois qu'ils ont reçu un accueil très chaleureux du public.
Donc ça, c'est plutôt le clan du même genre de vie que Manita Dupla.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
D'accord. L'autre groupe que vous m'avez amené, qui s'appelle comment ? Fantasia, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ça, c'est une autre histoire ?
Alors ça, c'est une autre histoire. Ça, ce sont des gens beaucoup plus simples, beaucoup moins fortunés et qui se battent un peu avec les moyens du bord pour joindre les deux bouts. C'est pas toujours facile.
Alors, on va d'abord écouter le premier groupe, Sol et Sombre, et puis on écoutera les autres tout à l'heure.
D'accord.
Dios te salve María, de los hijos Señora, luna, sol, noche y día, y pastora. Salve María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día.
Alors voilà, c'était le groupe Sol y Sombra, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Vous parlez la langue des tziganes, Sophie ?
Oh non, je ne peux pas prétendre parler la langue des tziganes. C'est vraiment un idiome, c'est très difficile à comprendre. C'est un mélange de catalan et de dialecte. Et je comprends certains mots,
Mais qui sont mais aussi une langue issue de toute cette longue histoire depuis l'Inde jusqu'ici.
Oui, oui, c'est une évolution. Bon, en fonction des pays, évidemment, les Catalans parlent le langage catalan mélangé avec un espèce de langage qui leur appartient en propre. Et en fait, entre ethnies, les manouches ne comprennent pas les Catalans. Ils ont des idiomes, ils ont des langages dialectiques tout à fait propres à chaque ethnie.
Voilà, donc il n'y a même pas un point commun qui font qu'ils pourraient se comprendre tous les uns les autres.
Bon, on prétend qu'il y a un langage qui pourrait éventuellement les rassembler, mais c'est pas évident, c'est un...
En tout cas, de votre expérience à vous, de ceux que vous connaissez, ce qu'ils vous ont dit, etc. En tout cas, ils n'ont pas l'air de se comprendre tous, forcément. Quoi.
Non, c'est un langage... Bon, disons que de par le monde, ils ont conservé un langage qui s'appelle le romani. Mais cette langue a été perdue à la Reconquista et les rois catholiques qui l'avaient prohibée ont fait que finalement ce langage n'a plus été parlé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les gitans parlent un idiome qui peut être assimilé au catalan avec des mots qu'ils ont gardés du romani.
Alors, tout ce que vous allez nous raconter maintenant, il faut bien qu'on le précise peut-être à nos auditrices et auditeurs, c'est tout à fait lié à un vécu personnel que vous avez eu, hein, c'est que vous n'êtes pas une historienne spécialiste.
Non, pas du tout.
L'histoire, mais c'est vraiment des histoires que vous avez vécues vous-même, mm-hmm. des rencontres que vous avez faites vous-même. On va peut-être aussi préciser qu'on va parler surtout des Tziganes, des Gitans qui vivent en France, que par rapport à la Suisse, nous aurons quelque chose à dire, entre autres par rapport au film qui a été montré hier soir, un film magnifique qui a pour titre, voyons voir que je le retrouve, je crois
les
que c'est
Les Enfants de la Route.
Les Enfants de la Grande Route, c'est ça. Un film qui a été réalisé en 1992, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par un réalisateur suisse-allemand, Urs Eger. Et qui raconte cet épisode absolument monstrueux, et peut-être en avez-vous, enfin j'espère, entendu déjà parler, cette action lancée par Pro Juventute, qui consistait à enlever les enfants des familles tziganes pour soi-disant leur donner leur chance de mieux vivre, pour être éduqués, apprendre à lire, à l'écrire convenablement, et surtout qu'on enlève toute trace de leur race honteuse qui avait des élans absolument infâmes et qui les encourageait à voler, à fuir, etc. Et ce film est vraiment exemplaire, on en reparlera tout à l'heure. Mais disons que, en tout cas, vous, ce que vous avez vécu ne concerne pas la Suisse. On sait qu'aux portes de Genève, à Versoix, la ville de Versoix a accordé un lieu d'établissement aux Gitans, qu'ils peuvent y vivre là en permanence. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations par rapport à la Suisse. C'est vous qui nous parlerez principalement de ce que vous avez vécu et échangé avec des gitans en France. Alors, je me suis souvent repris, Sophie, en disant gitans, tziganes, vous avez dit manouche. Il y a beaucoup de termes que l'on emploie à propos de ce peuple. Est-ce qu'il y en a les uns, les autres sont plus justes que d'autres, ou est-ce que simplement, au fur et à mesure des époques ou des pays où ils ont vécu un moment, que ces noms ont été créés?
Oui, tout à fait. En fait, les gens du voyage peuvent être divisés en trois groupes principaux. Vous auriez tout d'abord les Farns, qu'on appelle plus communément les Blancs. Ce sont des Tziganes calderas, connus comme chaudronniers et qui ont des métiers en relation avec le fer. Ils sont en général établis en Europe centrale et dans la péninsule balkanique. Ensuite, vous avez les Manouches, de Manus qui veut dire homme en sanskrit et qui séjournent en Europe. Ensuite, vous avez les Calais ou Bruns. Ce sont des gitans proprement dits. Ils se trouvent au bord de la mer Méditerranée, du côté occidental, en France, en Afrique et dans la péninsule ibérique. Les deux premiers groupes sont tziganes et non, comme certains l'écrivent, tziganes avec un Z, mais tziganes avec un S. En fait, le nom de tzigane a fait son apparition au XVe siècle en Grèce et il vient du grec Atsinganos, secte hérétique. Il est devenu Tsingari en Serbie, ensuite il est devenu Zingari avec un Z, Z-I-N-G-A-R-I en Italie, et Tsinganos au Portugal. Les gitans, en fait, sont originaires du nord de l'Inde, de l'Indus, et ces tziganes qui étaient en fait partie intégrante d'un peuple homogène, mais qui n'étaient... en fait pas partie intégrante d'un peuple homogène, mais au contraire une sorte de fédération de tribus nomades formées de paysans, éleveurs et d'artisans, ont émigré de l'Inde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour venir se répandre dans les pays méditerranéens et européens. Ensuite, on les a désignés sous différents noms. et suivant les époques et les lieux. Ils étaient bohémiens ou boumians, hongrois ou gypsies. Le plus souvent, ils sont nommés Romanichel, Romani ou Romanos. L'on pourrait croire que ces gens sont originaires de Roumanie, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. En fait, ils appartiennent simplement au peuple Rom, donc R-O-M, et parlent la langue de ce nom.
Qui veut dire la route, non, je crois, Rome.
Oui, hein. Tout à fait, c'est ça. Mais bon, les Tziganes ont été désignés aussi par d'autres noms. Au Moyen-Âge, ils étaient Sarrasins pour les Français, et Tartares, Taternes pour les Allemands, Grecs pour les Catalans, Pharaons pour les Hongrois, Carac en Languedoc, Roussillon et en Provence. En fait, le nom de Carac, qui est toujours usité dans le sud de la France, fait penser aux Karakis des anciens Perses et des villes de Carac ou Karakis au Pakistan. Ensuite, depuis le début du XVIe siècle, les Tziganes de la tribu des Rabouins, plus communément appelés fils du diable, sont également nommés Luri, Sinti, Yéniche, dont on parle pas mal en Suisse, ou de Calderas, qui sont chaudronniers, et Oursari, les montreurs d'ours. Donc il en existe encore, j'en ai vu encore il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, au Sainte-Marie, pour le pèlerinage des Gitans qui se déroule le 23, 24, 25 mai toutes les années.
Donc souvent des noms qui sont liés soit à leurs activités professionnelles,
tout à fait,
soit au pays dont ils sont originaires, oui, soit aux images épouvantables qu'on fait courir sur leur compte, si j'ai bien compris, si je résume toute la liste des choses que vous nous avez données. Alors, disons que ce qu'on emploie le plus souvent chez nous, c'est quoi ? Gitans, manouches, tziganes,
oui,
romanichels ?
Disons que, oui, les gitans, tout, les manouches sont en France et aussi en Allemagne. Et les gitans également sont répandus dans les deux pays. Mais bien que vivant sur le même territoire, ils ne se rassemblent jamais sur le même campement. Pourtant, ils fréquentent les mêmes lieux de pèlerinage, les Saintes-Maries de la Mer et Lourdes. Mais malgré tout, lorsque nous interrogeons une famille gitane, nous apercevons très souvent qu'un ancêtre était manouche et le contraire est aussi vrai. Il y a des mariages entre manouches et gitans et entre gitans et manouches. Disons que les manouches sont plutôt du côté de l'Est. Ils sont plutôt blancs, alors que les gitans sont plutôt colorés et plutôt venant du sud.